Sürekli görünce avukatlar tarafından yazılmışlar. Hatta bizim de kalabalık çıkıyor. Neyi de bizim de kalabalık çıkıyor. Bunun bu kadar değil. Yani saatlik de şunu ne görüntüleriz. Aralarının adliye yapımında ne yapsamız? Mekna, asıl o mekna. Bir kumada başlıyor. Çünkü arkadaşlar bir yolu tutuyor. Bir kişi yapıyor. O zaman adını değil. Bizim de süresi bu kadar kadar. Bir sabah arkadaşlar diyor. Arkadaşlar
Je pense qu'il va faire chaud. Bon, la première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que je vais procéder de cette façon. Une main libre pour les feuilles, puis la parole. Puis de temps en temps, je vais changer de main, ça va faire de la diversion. Alors, je pars le compteur à 60 minutes et je vais voir où je suis rendu au fur et à mesure. Voilà. La première des choses, je pense que nous pourrions commencer par un moment de silence, pas long, 15-20 secondes, pour nous ramasser, pour nous recueillir et nous rendre disponibles à écouter à travers tout cela, non pas la parole d'André Breton, mais la parole de Jésus. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous consolerai. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous êtes sans doute au courant du thème de l'année pour foi et partage. La foi, source de joie. Et aujourd'hui, dans la ligne de ce thème, nous allons voir la foi du centurion, telle que racontée chez Luc. Je voudrais commencer par une citation du pape François, non pas pour faire à la mode, mais parce que vous allez voir tout de suite que cette citation rejoint vraiment notre rencontre avec le centurion et avec Jésus. Dans la joie de l'Évangile, au tout début, François écrit « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus-Christ. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. À la fin de notre rencontre, je pense que nous pourrons vivre cette joie en nous associant à la joie de celui que nous avons rencontré dans le récit de ce matin, le centurion. La foi, la joie du centurion. Je vais d'abord, même si vous connaissez ce récit biblique, je vais quand même vous lire le texte intégral de la rencontre de Jésus, du centurion avec Jésus. Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade sur le point de mourir, et il l'appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques notables des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, ceux-ci, les Juifs, le suppliaient instamment et ils disaient « Ce centurion mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Jésus faisait donc route avec eux et déjà il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé moi-même autorisé à venir jusqu'à toi. Mais dis un mot et que mon serviteur soit guéri. Ainsi, moi, je suis placé sous une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant ces mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole du Seigneur. Je vais avoir une minute de plus. On va commencer par regarder les personnages brièvement. Il y a d'abord un centurion. Un centurion, c'est qui? Un centurion, c'est un chef d'armée romaine qui a sous sa responsabilité 100 soldats. Centurion, 100 soldats. Et un centurion, c'est pas quelqu'un qui est dans la ouate. C'est quelqu'un qui est réputé sévère, dur, et quand il dit à un soldat « va », c'est pas « aimerais-tu aller faire un tour par là ?»« Va ». Et à un autre « viens ». C'est une parole à laquelle on ne résiste pas. Un esclave, au contraire, c'est un homme qui n'a aucun droit. C'est un homme qui n'est rien. Il n'existe que parce qu'il a un maître. Et l'esclave de ce centurion, c'est un esclave qui, au point de départ, n'a droit à aucune considération. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de surprenant de la part du centurion. Le centurion appréciait beaucoup son esclave. Et il y avait des liens d'amitié, des liens qui n'étaient pas habituels entre un centurion et un esclave. Et il appréciait beaucoup son esclave et comme il était malade à l'article de la mort, il a décidé d'envoyer quelqu'un pour rapprocher Jésus parce qu'il savait que Jésus pouvait faire quelque chose. C'est sûr que pour comprendre l'attitude du centurion par rapport à son esclave, il faudrait peut-être regarder le contraire. Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Le centurion aurait pu trouver ça triste que son esclave soit à l'article de la mort. Il aurait pu se dire tout simplement, « Que voulez-vous? C'est la vie. » Et puis, il serait passé à autre chose, comme par exemple, commencer à aller au marché des esclaves pour en chercher un autre pour le remplacer quand celui-là va mourir. Mais c'est pas ça du tout qui se passe. Quand l'esclave, quand il a entendu parler de Jésus, il a envoyé des notables juifs pour prier Jésus de venir sauver son esclave. Vous allez le voir tout au long de l'entretien, à un moment donné, on va faire des arrêts à différentes stations. Et on va faire un premier arrêt ici. Luc nous dit, « Ayant entendu parler de Jésus, Comment est-ce que le centurion a pu entendre parler de Jésus? C'est sûr qu'il a dû entendre le placotage des gens. Les gens qui murmurent entre eux autres de ce qui se passe à Capharnaüm, de ce qui s'est passé un peu en Galilée. Et surtout, parler de ce Jésus qui est un peu spécial. Les gens racontaient donc des choses concernant Jésus. Ce qu'ils pouvaient raconter, on retrouve ça dans différents passages de Luc. Par exemple, à Capharnaüm, la foule était frappée par son enseignement. Parce que Jésus parlait non pas comme leurs scribes, mais il parlait avec autorité. Parler comme les scribes, c'est quoi? Les scribes, ils lisaient des textes qui avaient été écrits par d'autres scribes, et leur enseignement consistait tout simplement à reprendre, à relire ce qui avait été écrit par d'autres scribes. Tandis que Jésus, c'est pas ça. Jésus, quand il parlait, ça venait de son cœur. Et quand il parlait, il disait des choses nouvelles. Les gens étaient habitués avec les scribes, ils connaissaient un peu d'avance à ce qu'est le message. Mais Jésus, c'était différent. Il ne lisait pas de texte des scribes, et quand il parlait, ça venait de son cœur. Et même, les foules avaient vu qu'il avait chassé un démon impur à un moment donné. À ce moment-là, les foules avaient été saisies d'effroi parce que les démons, ça fait peur. Et les gens se disaient ça les uns aux autres. Ils se rapportaient ça. Jésus, ben, tu connais Jésus? Oui, ben, je l'ai vu hier, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Le centurion avait entendu parler de Jésus. On raconte aussi que lors d'un repas chez la belle-mère de Pierre, un de ses disciples, la belle-mère était très malade, elle avait de la fièvre. Et que Jésus s'est approché d'elle dans l'appartement, la chambre où elle était, et quand ils en étaient ressortis tous les deux, elle était sur le piton, plus de fièvre, et elle servait le repas. Il y avait beaucoup de monde qui sont ramassés à la porte pour être guéris à ce moment-là. Il y a même, comme le monde disait, il a même guéri un lépreux. Un lépreux, il avait osé s'approcher de lui, ce que personne, aucun bon juif ne fait. Et lui avait osé. Non, vraiment, on parlait de plus en plus de lui, Jésus, et de grandes foules s'assemblaient autour de lui pour l'entendre. Il y avait même guéri un paralysé, puis ça, les gens se le racontaient parce qu'ils disaient « ça, c'est vraiment spécial ». Il se retrouvait à un moment donné à l'entrée d'une maison, et il y avait du monde, et il arrive quatre personnes qui portaient un paralysé dans une civière. Ils ont essayé de rejoindre Jésus, mais ils ne réussissaient pas. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Les gens se disaient ça. Ils ont monté sur le toit, ils ont entassé les tuiles, le gravier tombait sur Jésus, de la poussière, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et ils descendent le paralysé devant Jésus. Il faut avoir vraiment du cran et surtout, il faut avoir confiance dans ce Jésus-là. Et quand Jésus le voit, qu'est-ce qu'il dit au paralysé? Je te le dis, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Bien, le gars, il s'est levé tout de suite, puis il a ramassé ses affaires et il est parti comme ça. Les gens, saisis de crainte, se disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. C'est donc bien certain que le centurion avait entendu parler de Jésus et des guérisons qu'il opérait. C'est sans doute cette raison-là qui l'a amené à se dire, mon centurion, il n'y a plus rien à faire. Leur dernier recours, j'envoie des notables juifs pour lui parler de mon centurion. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui, c'est ce Jésus-là. Pourquoi le centurion envoie les notables juifs? Bien, un centurion, c'est quelqu'un de haut placé. Et il est habitué de fonctionner avec les gens d'importance, les notables. Et c'est pour cette raison-là que il n'y va pas de lui-même dans le récit de Luc, mais qu'il envoie des notables juifs pour aller rencontrer un juif, Jésus. Et il se disait sans doute, ça va être mieux que si moi, un centurion romain, j'y vais. La façon dont les Juifs rencontrent Jésus, ça nous permet de peut-être faire des liens avec des choses qu'on connaît. Parce que finalement, le centurion, ce qu'il demande au notable juif, c'est un peu comme une faveur. C'est un peu, en fait, comme un retour d'ascenseur. Peut-être que ça vous vient à l'esprit, à ce moment-là, ce qui s'est passé à la commission Charbonneau, où des gens, comme ça, faisaient une faveur à un tel ou tel, et un retour d'ascenseur, tu m'amènes sur ton yacht, puis moi, parce que tu m'as bâti une maison, la maison est claire, parce que le monsieur, il s'appelle Monsieur Leclerc. Tu m'as bâti une maison, bien, à mon tour, quand tu vas... Vous comprenez, on a tous su ça. Mais c'est pas tout à fait de même la faveur que le centurion demande au notable juif. Quand on regarde les faits, il y a vraiment une grosse différence. Les politiciens, eux autres, les hommes d'affaires qui sont croches, bien, ils se font des faveurs entre eux autres pour leur profit personnel au détriment du bien de la société. Mais ici, rien de tel. Les notables juifs interviennent auprès de Jésus pour le bien de l'esclave malade, pour sa guérison, non pas pour leur profit personnel. Et quel est l'objet de la demande du centurion? Il leur dit, allez voir Jésus pour le prier de venir sauver mon esclave. Arrivé auprès de Jésus, les notables le suppliaient instamment. Eux aussi, auprès de Jésus, ils font jouer un peu, je dirais, le système de faveur. D'abord, ils sont des Juifs, comme Jésus est juif. Et pour eux, comme pour Jésus, la synagogue, c'est important pour la communauté. Et ce centurion-là, il leur a bâti une synagogue. Et ils ajoutent, ce centurion-là, contrairement aux Romains, il aime notre nation. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est bon. Et ce qu'il demande, Jésus, ça vaut vraiment la peine que tu le lui accordes. C'est quelqu'un de spécial et nous sommes heureux de venir te supplier de faire quelque chose pour lui. Ce que les notables juifs font, ce que le centurion fait, ça ressemble aussi à des choses qui nous arrivent dans notre vie. Ça vous arrive à tout le monde que quelqu'un de vos proches, de vos amis vous dise « Tu pourrais-tu prier pour mon frère, ma sœur, un cousin, quelqu'un qui est très malade, qui a perdu son emploi, qui a des problèmes avec ses ados, pourrais-tu prier pour lui, pourrais-tu prier pour elle ?» Et dans notre prière, qu'est-ce que nous disons? Nous disons quelque chose qui ressemble à ce que les notables juifs disaient. Seigneur, la personne que André m'a demandé de prier pour elle, c'est mon ami aussi. Viens lui en aide, apporte-lui le soutien dont elle a besoin. C'est aussi ton ami, Jésus. En fait, on refait les mêmes démarches que le centurion a fait auprès des Juifs, que les Juifs ont fait auprès de Jésus. Le centurion prie les Juifs d'aller voir Jésus, les Juifs, à leur tour, intercèdent auprès de Jésus, et Jésus se met en marche. Jésus accède à leur demande, et Jésus exauce leur demande, comme ça se passe pour nous autres aussi dans notre vie. Il sera donc avec eux à la maison du centurion. Là-dedans, il y a un fil conducteur qu'il ne faut pas perdre. Si le centurion n'avait rien fait, il serait rien passé et l'esclave serait mort, tout simplement. Mais c'est la démarche du centurion qui a mis en branle tout le restant. C'est comme nous autres, des fois, on peut être gêné de demander à quelqu'un de nos amis, « Prie un peu pour quelqu'un, j'ai vraiment besoin de prier pour lui. » Si on ne le fait pas, il ne va rien se passer, c'est clair. Mais si on le fait, il y a un enchaînement qui se produit et nos expériences personnelles nous apprennent qu'il se passe toujours quelque chose parce que la prière des disciples, elle est forte, elle est puissante, comme nous le rappelle l'apôtre Jacques en particulier. Ça nous ramène à la parole bien simple de Jésus. Demandez, n'ayez pas peur, et vous recevrez. Parce qu'on a un Père qui nous aime. Et lequel d'entre vous, qui est papa, qui est maman, qui est grand-père, qui est grand-mère, donnerait un caillou à son fils, à sa petite-fille, qui demande du pain? Et Jésus de continuer, si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit et ce dont ont besoin mes enfants bien-aimés? Rendu ici, on va changer de wagon. Jusqu'à maintenant, c'est Saint-Luc qui a été notre conducteur, qui nous a raconté le récit de la rencontre de l'intervention du centurion auprès de Jésus. À partir de maintenant, on quitte Saint-Luc pour prendre le récit de Saint-Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Je vais d'abord vous expliquer les raisons de ce changement. La seule différence, en fait, mais elle est importante, nous allons le voir, c'est que chez Luc, le centurion envoie les notables juifs auprès de Jésus, parce qu'il ne se sent pas digne de se présenter lui-même en personne auprès de Jésus. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, quand les notables et Jésus arrivent proches de la maison, il ne sort pas lui pour leur lui dire « je ne suis pas digne », mais il envoie des gens de sa maison pour dire « je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, je ne suis pas digne de te rencontrer personnellement ». Dans le texte de Matthieu, c'est le centurion lui-même qui rencontre Jésus. Et là, ça apporte vraiment des éléments nouveaux, des éléments importants pour nous autres et pour saisir la foi du centurion. C'est ainsi que ça va nous amener à pousser plus loin notre réflexion, notre méditation. Alors, comme j'ai fait pour Luc, je vais vous lire maintenant le récit de Matthieu pour que vous saisissiez bien la différence qu'il y a. Jésus entrait dans Capharnaüm quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Mais le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient, et à mon esclave, fais ceci et il le fait. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru. Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Acclamons la parole du Seigneur. Au tout début de cet extrait de Matthieu, c'est écrit « Jésus entra à Capharnaüm, la grande ville ». Capharnaüm, c'est vraiment une grande ville, on dit carrefour des nations. toutes les routes de commerce arrivent à Capharnaüm. C'est une ville de commerce, une ville d'échange, c'est grand Capharnaüm. Et comme le dirait quelqu'un que je connais bien, un monsieur Labeaume, c'est big Capharnaüm. Et Jésus rentre tout bonnement dans sa ville où demeurait Simon. Il s'en allait justement chez Simon. Et les gens qui côtoyaient Jésus à ce moment-là, bien, ils remarquaient rien de spécial chez Jésus, rien de spécial non plus. Ils jasaient tout simplement entre eux autres, ils placotaient eux autres aussi de ce qui se passait. Et en marchant avec Jésus, bien, ils se rendaient là où Jésus habitait. Parce que Jésus, il habitait Capharnaüm au bord de la mer, Matthieu 4, 13. Alors Jésus marche avec ses disciples tout bonnement. Chacun y va de son mot, quand soudain, voilà qu'un centurion s'approche de Jésus. Arrêtons-nous ici pour réflexion et pour nous demander, qu'est-ce que ça veut dire au juste s'approcher de quelqu'un? Il est dit, le centurion s'approcha de Jésus. Mais si on s'arrête au mot, ça veut dire quoi s'approcher de quelqu'un? S'approcher de quelqu'un, c'est aller vers lui. C'est le contraire de s'éloigner de lui, de le fuir. Et quand quelqu'un t'approche, il entre en quelque sorte dans mon espace. Il entre un peu chez moi. Et à ce moment-là, j'ai le choix. Ou je l'accueille, ou je ne l'accueille pas. Et si j'accueille la personne qui s'approche, je m'approche à mon tour. Je me fais proche. Quand je m'approche de quelqu'un, c'est qu'il y a une raison pour laquelle une raison qui m'amène à m'approcher de cette personne, qui me pousse à aller vers lui. Au point de départ, si je m'approche de quelqu'un, il faut qu'il y ait une confiance envers cette personne. Je n'ai pas le goût jamais, à Saint-Roch même, de m'approcher des armoires à glace qui ont de jaquettes en cuir avec Hermès. Quoi qu'il n'y en a pas à Saint-Roch, là, mais c'est un exemple que je donne. J'ai pas le goût. Parce que j'ai pas confiance, puis j'ai pas de raison d'entrer en contact avec eux autres. Au point de départ, il faut donc qu'il y ait une confiance. Et dans nos vies, il y a beaucoup d'exemples de ça qui se produisent dans des occasions où je m'approche ou m'éloigne de quelqu'un. On sait à quoi ça fait référence, s'approcher de quelqu'un et être approché de quelqu'un. Et rendu ici, essayons de lire entre les lignes de l'Évangile pour imaginer comment a dû se dérouler cette rencontre de Jésus avec le centurion, ou plutôt du centurion avec Jésus. Donc, voici qu'un centurion s'approche de Jésus. J'imagine que Jésus l'a d'abord regardé. Parce qu'un centurion, c'était pas habillé comme tout le monde. Ça avait toujours la petite jupette des Romains avec le costume qui va en équivalent, là. Et peut-être pas le casque, mais en tout cas peut-être le casque sous le bras. Mais un centurion, c'est pas habillé comme les autres juifs. Alors Jésus l'a d'abord regardé, puis il s'est arrêté. Jésus aurait pu s'en éloigner. Ou encore l'éloigner. C'est un centurion romain, en fait. Et les Romains, les Juifs, c'est pas des grands amis. On le voit tout au long des Évangiles. Non. Jésus le laisse s'approcher. Et lui, Jésus, se fait proche de lui également en l'écoutant. Et à partir de là, une vraie relation peut s'établir entre le centurion et Jésus. C'est sur cette base qu'il peut se passer quelque chose par la suite. Jésus s'arrête, le regarde, il attend, il l'accueille. Et si le centurion s'approche de Jésus, Jésus s'en rend compte, il perçoit qu'il a quelque chose à lui demander, à lui dire. De la part de Jésus, on ne sent pas de crainte, de questionnement dans cette première approche. Jésus semble calme et il est tout présent à cet homme, il l'écoute. Et c'est sans doute ce qui donne confiance au centurion. Il avait entendu parler de Jésus, mais maintenant il fait l'expérience de le rencontrer personnellement, face à face. Et tout de suite, le centurion prend la parole, sans préambule, ni de la part de Jésus, ni de lui. Il va directement au but. Si on regarde cette scène, juste cette scène-là, il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. Jésus, qui est calme, qui le voit, qui s'arrête et qui l'écoute. Ce centurion, un étranger, romain. Et le centurion qui s'avance vers Jésus avec respect, avec non pas l'air de quelqu'un qui est autoritaire, mais, comment je dirais, un peu penché vers l'avant, comme quelqu'un qui a quelque chose à demander avec respect. Ici, le centurion part à la parole au but, le premier, il va droit au but. Et qu'est-ce qu'il dit? Il supplie Jésus en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. » Supplier, là, c'est pas juste demander, j'aimerais bien que... C'est pas juste souhaiter. Supplier, c'est pas mal plus fort. Et quand on va dans le dictionnaire, on découvre vraiment la force de ce mot « supplier ». Supplier, ça veut dire prier quelqu'un en demandant quelque chose comme une grâce, avec une insistance humble et soumise, avec déférence et respect. Prier, c'est demander quelque chose avec insistance, une grâce, un bienfait, une faveur, mais d'une façon humble et soumise, avec déférence et respect. C'est de cette façon que le centurion s'adresse à Jésus en le suppliant. Et comme je le disais il y a quelques instants, son attitude doit certainement coller à la supplication. Dans son attitude corporelle, il ne se présente pas, d'ailleurs il le dit, comme quelqu'un qui veut donner un ordre, comme quelqu'un qui serait autoritaire, mais il se présente avec une attitude corporelle qui exprime, qui traduit son respect. Il n'est pas droit comme une barre, mais un peu penché. Et il supplie Jésus de venir sauver son esclave. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffre terriblement. Dans le contexte où se déroulent les choses, il est clair que le centurion veut adresser une demande pressante, urgente, à Jésus. Il dit « Mon serviteur est couché à la maison ». Et Luc, dans le texte qu'on a vu auparavant, nous éclaire sur les raisons qui amènent le centurion à faire cette demande pour son serviteur. Ce n'est pas un esclave comme les autres. Luc nous dit, verset 2, « Un centurion avait un esclave, malade, sur le point de mourir, et qu'il appréciait beaucoup. Cet esclave lui était cher. » Et c'est pour cette raison que le centurion fait la démarche de s'approcher de Jésus et qu'il intervient auprès de lui parce que lui, le centurion romain, il croit fermement que Jésus, ce juif dont il a entendu parler, que Jésus peut sauver l'esclave qu'il aime beaucoup. Qu'est-ce que fait le centurion? En fait, Il prie Jésus pour une personne malade qui est proche de lui, une personne qu'il apprécie beaucoup. Il demande de guérir son esclave. Et vous voyez, c'est facile de faire la relation avec ce que nous faisons nous autres aussi, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous faisons la même chose nous autres aussi quand nous prions quelqu'un que nous aimons pour quelqu'un qui nous est cher, qui nous est proche. J'ai l'air parfois de répéter, mais c'est parce que dans cet épisode du centurion, il y a vraiment des choses qui peuvent nous échapper, mais quand on passe le texte, je dirais, au peigne fin, il y a là-dedans des choses extraordinaires qui nous parlent à nous autres aujourd'hui, les disciples de Jésus. La parole que Jésus dit après la demande du centurion, c'est une interrogation qui fait un peu spécial. Jésus répond, « Moi, j'irai le guérir ?» C'est une interrogation. On va s'arrêter une fois de plus à cette question de Jésus parce qu'elle va nous aider à découvrir la beauté, la profondeur de l'accueil et de l'écoute de Jésus. Tout ce qui est dans l'Écriture, tout ce que Jésus dit, c'est pas innocent. Ça a du sens et c'est une parole qui porte, qui veut nous dire quelque chose d'important. Moi, est-ce qu'il t'a arrêté? On a il reste. Il reste 2 minutes. Ah oui, oui. Jean-Claude veut se lever, donc on se lève. Venez à moi. En France, tu peux l'arrêter. Oui.
Vous qui croyez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai.
Alors, pour faire un exercice qui est vraiment comme à la messe, faites simplement « Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. » Et comme on le dit à l'homélie, veuillez vous asseoir. Il va falloir que j'aille plus vite parce que là, j'ai déjà, il me reste 30 minutes à faire. Alors, Jésus dit au centurion, « Moi, j'irai le guérir. » C'est comme si Jésus exprimait un doute. C'est comme si Jésus posait une question pour être bien sûr de comprendre la demande du centurion. Ça revient à dire, « Tu voudrais que moi, j'aille guérir ton esclave, c'est bien ça. » Pardon. C'est comme si Jésus voulait s'assurer de bien comprendre. Ton esclave est très malade, je saisis, et tu me demandes d'aller chez toi pour guérir ton esclave, c'est bien ça? Et là, la question que Jésus pose, ça amène le centurion non seulement à préciser sa pensée, mais encore à exprimer la profondeur de sa foi en Jésus, à bien démontrer jusqu'où va sa confiance en Jésus. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est la raison pour laquelle je viens jusqu'à toi. Dis seulement un mot, une parole, et j'en ai la conviction, mon serviteur sera guéri. » En fait, si on paraphrase comme je viens de le faire, c'est un peu comme si le centurion disait « Je sais que tu peux le faire tout de suite. » Ici et maintenant. Tu n'as pas à venir chez moi et je ne veux pas t'obliger à te déplacer. Je ne veux pas te demander de venir chez moi. Je ne veux pas avoir l'air de te donner un ordre parce que moi, je suis un centurion, j'ai des soldats sous mes ordres. Va, il va, viens, il vient. Je ne veux pas avoir l'air de te donner des ordres. Tu sais, comme on le trouve dans l'Évangile, tu sais, moi, je suis soumis à une autorité, l'empereur. Et j'ai des soldats sous mes ordres. va, il vient, fais ça, il le fait. Non, Seigneur, je ne te demande rien d'autre. Dis seulement une parole, un mot, et je suis sûr que mon serviteur sera guéri. Quand on reprend ces paroles-là de la façon dont je les reprends avec vous autres, on est à même de comprendre l'émerveillement de Jésus, le bouleversement de Jésus. Pensons-y un peu. C'est un centurion romain, un étranger, qui connaît rien de la religion de Jésus, la religion des Juifs. Un centurion romain qui vient voir Jésus et qui manifeste de l'humilité, du respect, de la confiance, une foi sans limite, en fait, et qui s'adresse à Jésus, non pas comme quelqu'un qui peut le dominer, mais comme quelqu'un dont il attend tout. Jésus n'en revient tout simplement pas. Comme on dirait familièrement, ça le jette à terre. Il n'a jamais rien vu de pareil. Et c'est ce qu'il dit aux gens qui l'entourent. Non, vraiment. Vraiment, ça me dépasse. Vraiment, j'aurais jamais cru voir cela. J'ai jamais vu une telle foi, même pas en Israël, jamais. J'ai jamais vu ça, une telle foi. Et en vérité, je vous le déclare, ça me bouleverse au plus haut point. Non, vraiment, je vous le dis, je vous le répète, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et Jésus dit au centurion, « Je rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Le centurion ne le savait pas encore. C'est quand il est arrivé chez lui, des gens sont venus à sa rencontre et ont dit, « Ton esclave est guéri. » Et lui, il leur demande, « C'est arrivé à quelle heure? » On lui dit, « C'est arrivé à 2 heures. » Ça, c'est pas marqué, mais « C'est arrivé à 2 heures. » C'est exactement l'heure où il m'a dit, « Rentre chez toi, ton serviteur est guéri. » Je pense qu'on n'a pas de misère à s'imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de ce Romain. L'action de grâce, le remerciement, la confiance en cet homme Jésus qui agissait sans aucun doute sous l'autorité, non pas de Zeus, d'Héraclès, de Junon, mais sous l'autorité d'un Dieu tout-puissant, créateur, guérisseur. Jésus lui dit, « Rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru. » Cette consigne de Jésus, on va s'y arrêter un peu, parce qu'on la retrouve à différents endroits dans les récits évangéliques. Je vais vous les rappeler brièvement. Pourquoi on va s'y arrêter? Parce que ça fait appel à une réalité qui est encore présente dans notre vie et qui se rattache à la foi du centurion. Vous vous rappelez la guérison des deux aveugles qui s'approchent de Jésus et qui demandent d'être guéris. Jésus leur demande, « Croyez-vous que je puis faire cela? » « Oui, Seigneur. » « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. On retrouve la même chose dans la rencontre avec la Cananéenne. Elle approche Jésus et lui dit, « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et après un échange assez vigoureux entre elle et Jésus, vous vous en souviendrez, Jésus dit, « Bouge pas, il fait rien. » Elle crie après lui, les disciples disent, « Bien, fais quelque chose, elle n'arrête pas de crier. » Et Jésus lui dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Vraiment, là, c'est pas fort comme bienveillance. Mais dans la mentalité de Jésus, des Juifs de ce temps-là, et ça contraste beaucoup avec ce qui s'est passé avec le Romain, ceux qui ne sont pas Juifs, les païens, on en parlait comme des chiens. Et ce qui est fort là-dedans, c'est la répartie de la Cananéenne qui lui dit, « D'accord, je sais tout ça, mais les petits chiens ramassent les miettes qui tombent sous la table les miettes que laissent tomber les enfants. Et encore une fois, Jésus, jeté à terre, bouleversé. Là, a-t-il prendre direct au cœur. Et Jésus lui dit, il reconnaît, « Femme, ta foi est vraiment grande. Qu'il t'arrive comme tu veux. » Et sa fille fut guérie à cette heure-là. Prenons un dernier texte. Simon le pharisien qui avait invité Jésus à venir manger chez lui pendant un repas. Et pendant le temps qu'il était là, arrive une pécheresse. Pour y aller avec des mots crus, là, c'est ce qu'on pourrait dire, nous autres, une femme de mauvaise vie, et je ne dirai pas l'autre mot qui commence par P et qui finit par N. Et ce n'est pas pain. Cette personne, cette femme arrive là, et elle se garoche littéralement au pied de Jésus. Elle pleure, elle sanglote, et de ses larmes, elle mouille les pieds de Jésus. Et par après, elle avait des grands cheveux. Avec sa chevelure, elle le suit, les cheveux de Jésus. Simon, qui avait fait venir Jésus pour voir si c'était vraiment un prophète, il se dit, non. Ce type-là, c'est sûrement pas un prophète, parce que c'est un prophète, il saurait quel genre de femme c'est ça. Et c'est là qu'il y a quelque chose de beau. Simon, Jésus dit à Simon, je vais te poser une question. Si quelqu'un est emprunté 300 pièces, puis un autre 20 pièces, et que tous les deux te le remettent, à l'endroit vis-à-vis lequel tu vas être le plus reconnaissant? Simon, comme n'importe qui de nous autres, dit, « Ben, Seigneur, je vais être plus reconnaissant envers celui qui m'a mis 300 que celui qui m'a mis 20 pièces. » Et Jésus, en continuant à regarder Simon, en continuant à regarder la femme, il dit à Simon, et ça, c'est grave, c'est important de penser à ça, Jésus regarde la femme, puis il parle à Simon. Il l'invite à regarder la femme comme lui, Jésus, la regarde. Simon, tu vois cette femme? Parce qu'elle a beaucoup aimé, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Toujours on retrouve ta foi t'a sauvée, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie. Jésus nous rappelle que c'est vraiment la foi qui sauve, la foi qui guérit. Et vous vous rappelez sans doute l'épisode où il dit aux disciples, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, une graine de céleri, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi à la mer, et elle se déplacerait. Croyez donc, ayez foi en moi. » Et c'est important pour nous autres aujourd'hui de demander au Seigneur, « Seigneur, viens en aide à mon peu de foi, augmente ma foi. » Tout au long de l'Évangile, Jésus revient là-dessus. Rendu ici, on a pas mal fait le tour. Je voudrais faire des liens avec le thème du carême, parce que la rencontre entre Jésus et le centurion et les différentes rencontres de Jésus dont on a parlé, ça s'y prête. Vous savez probablement le thème du carême, tous ensemble, fort. Ah ah, bienveillant comme lui. C'est quoi au juste la bienveillance? La bienveillance, ça se retrouve chez une personne qui prend du plaisir à faire le bien autour d'elle. La personne qui est foncièrement bonne, qui ne fait pas du bien autour d'elle par obligation. Genre, ma mère est au foyer, faudrait bien que j'aille la voir aujourd'hui, je vais prendre 15 minutes pour aller la voir. Il n'y a rien de bienveillant là-dedans. Mais la personne bienveillante prend du plaisir à faire du bien autour d'elle. C'est une personne qui se montre compatissante, généreuse, charitable. Une personne bienveillante ne ferme jamais les yeux sur la souffrance des autres. Elle ne fuit pas devant les obstacles. On dit, comme on disait de Jésus, cette personne passe dans le monde en faisant le bien. C'est le thème du carême être bienveillant comme lui, Jésus, a été bienveillant. Et on peut regarder brièvement la bienveillance de Jésus qui s'exprime par rapport au centurion. La bienveillance de Jésus, c'est qu'il écoute, il accueille, il a de la compassion, il se déplace, il prend le temps de bien comprendre la question de l'autre. Bienveillant comme Jésus, on a une idée de la bienveillance de Jésus et nous sommes appelés à être bienveillants comme lui, plus spécialement durant le temps du carême. Le centurion aussi est bienveillant. Quand il arrive auprès de Jésus, toutes les précautions qu'il prend pour que Jésus comprenne vraiment à quel titre il se présente à lui, non pas comme un centurion, mais comme quelqu'un qui demande humblement la guérison de son esclave. Et le centurion, s'il n'avait pas été bienveillant, il aurait dit à Jésus, avec d'autres soldats, « Viens chez moi, il l'amène de force, puis maintenant, guéris-le. » Il n'aurait pas eu de bienveillance. Mais son attitude exprime la bienveillance. Je termine avec un exemple suprême de ce que c'est que la bienveillance dont on me parle dans l'Évangile. Un sommet de bienveillance. La bienveillance, là, je dirais à l'état pur. Et dès que je vais prononcer les mots suivants, vous allez comprendre que c'est vrai. Le bon samaritain. C'est un sommet dans la bienveillance. Et je rappelle brièvement ce qui se passe. Un voyageur qui est attaqué par des bandits, des voleurs. Sûrement des gens qui ne sont pas bienveillants. Un prêtre qui passe, qui voit et qui passe tout droit. Non bienveillant. Un lévite qui passe lui aussi, mais qui passe à bonne distance, ne s'arrête pas. Non bienveillant. Ce monde-là, c'est tout du bon monde. C'est du monde d'Église. C'est des gens de la religion. Le prêtre juif, le lévite juif, c'est des gens qui sont proches du temple. Passe un samaritain. Et là, c'est la bienveillance même qui s'exerce. Regardons brièvement son attitude, ses gestes, ses paroles. Il voit l'homme, il s'approche de lui. Il est pris de pitié. Compassion. Il soigne ses plaies, il en prend soin. Il le met sur sa monture pour l'amener à l'aubergiste. Et rendu à l'auberge, il dit à l'aubergiste, « Tu en prends soin, jusqu'à mon retour, je te donne de l'argent. Si, quand je reviens, tu as dépensé plus, je paye pour lui. Prends-en soin. » Un sommet de bienveillance. Et qui est tellement bienveillant? Ce n'est pas un juif, c'est un samaritain. Les samaritains, les juifs, chiens et chats. Et vous vous rappelez de mémoire la rencontre de Jésus avec la samaritaine sur le bord du puits. Quand Jésus lui demande à boire, qu'est-ce qu'elle lui dit? « Toi, un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de boire? » Mais t'es malade. Et quand la conversation, Jésus l'engage, elle s'engage, on voit toute la distance qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs. La Samaritaine dit, « Nous autres, on adore Dieu, le même Dieu que vous autres, mais sur le mont Garizim. Puis vous autres, vous l'adorez sur le mont Sion. » Comme on le voit dans d'autres épisodes de l'Évangile, ça amène Jésus à faire un développement qui nous rejoint aujourd'hui. Jésus dit, « Pas question de Garizim puis de Sion, de Sion. » Non. Viendra un jour où on adorera Dieu dans son cœur. Et ça a été complété, ça, par Jésus puis par l'apôtre Paul. Nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Dieu habite notre cœur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et quand Jésus, après avoir raconté ça aux Juifs, aux scribes, lui posait une question, c'est qui mon prochain? Jésus lui dit, va. Et toi aussi, fais de même. Enfin, la conclusion. Je terminerai par une citation de François, extraite de la joie de l'Évangile, comme j'ai commencé par ça. François écrit et dit « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher à chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation que je vous fais n'est pas pour lui. Parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque la rencontre, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Je pense que c'est facile de faire les liens entre ce que François nous dit et la foi, la joie du centurion et de Jésus. Et c'est en ce sens-là que je reviens au début de la rencontre en citant « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Avec Jésus, dit François, la joie naît et renaît toujours. Elle est comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. C'est l'expérience que le centurion a vécue quand il est allé rencontrer Jésus. C'est l'expérience que les aveugles, lépreux, cananéens, samaritains, Pierre, disciple, apôtre, et nous, frères et sœurs, nous faisons quand nous allons rencontrer Jésus dans les sacrements, dans la méditation de la parole, dans les gestes, les attitudes de bonté, de bienveillance que nous vivons, quand nous partageons la parole, la vie, l'amour du Seigneur. Puissions-nous, avec le centurion qui est maintenant au ciel, et qui doit être surpris à n'en jamais revenir, souvenons-nous qu'à chacune de nos Eucharisties, comme on me l'a rappelé tout à l'heure, nous reprenons avec foi la parole du centurion. Ensemble, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et je serai guéri. » Amen. Thank you.